vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant, celui de la formation des aidants en EHPAD. Une formation en une journée pour les aidants dont les proches donc se trouvent en EHPAD. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de France Alzheimer Dordogne, Geneviève Demours. Bonjour.
Et bonjour à tous. Bonjour Valérie.
Alors première question pour commencer cette émission, quelle est la différence entre être aidant à la maison et être aidant en EHPAD ?
Ah, ça c'est une belle question. L'idée c'est que lorsqu'on a accompagné une personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée à la maison, on est la seule personne de référence même si un certain nombre de soignants se relaient à la maison, comme c'est souvent le cas. Et puis, peut-être que, dans certaines situations, la maladie évolue, la place de l'aidant, du proche, de la fille, du fils, du conjoint ou de l'épouse devient un petit peu fragilisée parce qu'elle n'en peut plus, parce que aussi la maladie s'aggrave et il y a des syndromes psychocomportementaux qui arrivent. Et la personne malade a besoin d'être soignée, accompagnée bien sûr, mais soignée au long cours, le jour, la nuit, pour que la relation ne soit pas trop fragilisée entre la personne malade et son proche. Alors, la décision de confier la personne à un établissement est posée. Et la question se pose dans ces termes-là. Est-ce que mon proche a besoin d'un peu plus de soins que ce que je peux lui donner à la maison avec toutes les aides possibles et imaginables. Et là, les choses sont très compliquées parce que il y a des loyautés. Vous savez, on dit toujours « jamais je ne te mettrai en maison de retraite, maman, ne t'inquiète pas » ou des loyautés qui ont été faites avec des personnes qui ne sont plus là, c'est-à-dire « papa, je te promets, jamais je ne mettrai maman dans une maison de retraite » et le papa n'est plus là pour délier ces serments-là. Et donc la culpabilité s'installe. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je suis un bon fils, une bonne fille ? Est-ce que mon mari ou mon épouse aurait voulu ça ? Donc il y a tout ce problème de la culpabilité qui existe quand on est en EHPAD. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas bénéficié des magnifiques formations aux aidants que France Alzheimer dispense, et donc qui ne comprennent pas la maladie, qui ne savent pas interpréter les syndromes comportementaux, qui ne savent plus comment communiquer, parce qu'on ne leur a jamais appris, on ne leur a pas dit, peut-être quelquefois le diagnostic n'est pas posé non plus. Et donc, il est très compliqué de trouver sa juste place de famille à côté de la place des soignants, parce que les soignants, pour beaucoup d'entre eux, malgré tout ce qu'on raconte sur les EHPAD, sont des personnes qui sont dévouées, qui sont compétentes, qui réfléchissent, qui font le mieux qu'elles peuvent. Et finalement, elles sont là pour prendre soin de la personne malade. Et du coup, la famille, elle ne sait plus trop comment se situer. Dernière chose, on l'a vu pendant le Covid, souvent les proches familiaux ont beaucoup de mal à dire des choses aux équipes soignantes parce que, alors ils me l'ont confié quand on a fait les cellules d'écoute et de dialogue éthique pendant le Covid, ils ont peur des représailles de l'équipe soignante. Et ça c'est terrible parce que évidemment ça n'existe pas, mais ils veulent trouver leur juste place et ils n'y arrivent plus. Comment est-ce que je peux rester la fille, le fils, le conjoint de mon proche alors que je ne suis pas là tout le temps. Est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je peux m'autoriser à donner une douche à ma maman alors que je le faisais à la maison ? Est-ce que c'est à moi de choisir les vêtements de mon mari alors que quand j'arrive, il est habillé avec des vêtements qui ne me conviennent pas ? Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont très compliquées en EHPAD. Et puis, effectivement, un certain nombre d'établissements ont pris un peu la main. Ils ont pris l'ascendant sur la personne en disant « Mais nous savons bien ce qui est bien pour votre proche et vous ne savez pas. » Et ça, c'est terrible pour les familles d'entendre ça. Quelquefois, on essaye d'expliquer aux institutions, mais demandez qu'on vous raconte comment c'était à la maison. la personne que vous voyez en face de vous qui arrive bien malade, elle n'est pas forcément, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle a eu une autre vie avant la maladie. Et peut-être que durant sa maladie à la maison, il y a des choses qui étaient encore possibles. Et souvent, c'est très compliqué de faire le lien entre les équipes de l'EHPAD et les équipes de soins et d'accompagnement à domicile. D'où l'importance de mettre des mots et d'expliquer au personnel, aux équipes d'EHPAD, que nous ne sommes pas là, nous ne venons pas critiquer ce qu'elles font, nous ne venons pas empiéter, mais nous venons en partenaire de l'accompagnement de la personne qui est dans l'EHPAD. J'ai l'habitude de dire, les personnes qui vivent avec ces maladies-là, elles ont besoin de ceux qui les aiment et de ceux qui les soignent. Et elles ont besoin de ces deux regards qui sont complémentaires et qui leur donnent un équilibre dans l'avancée de leur maladie.
D'où l'intérêt donc de cette formation, Geneviève. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle s'organise ?
Là, on en est au stade expérimental. On avait fait un groupe de travail sur 3 départements. Et donc, on est en train de réfléchir quel est le meilleur timing, quelle est la meilleure fréquence et comment on peut harmoniser tout ça pour que l'ensemble du réseau France Alzheimer puisse bénéficier de cette expérience-là, puisse l'approprier et puis que la CNSA puisse aussi nous la valider et financer, évidemment. Alors, la première rencontre, c'est une rencontre d'information, soit en présence des familles, soit à distance, mais qui permet aux bénévoles, aux binômes bénévoles-psychologues, comme dans la formation des aidants classiques, de rencontrer la gouvernance de l'EHPAD, d'expliquer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour critiquer, nous sommes là pour continuer à accompagner nos proches, pour former les familles à ce que c'est que l'entrée en EHPAD, à ce qui s'y passe, à ce que chacun puisse respecter le travail de l'autre et la mission de l'autre. Donc on explique ça dans un premier temps à la gouvernance de l'EHPAD. Et puis la psychologue, quand elle est là, mais souvent elle est là, essaye de les entretiens, vous savez, qui sont préconisés dans la formation des aidants à domicile, sont souvent faits par la psychologue de l'EHPAD, qui connaît bien les personnes, les familles qui sont accueillies. Ensuite, il y a 3, voire 4. Peut-être qu'on va aller jusqu'à 4 temps de formation, comme dans la formation des aidants à domicile, au sein des EHPAD, qui se limitent à 2 heures. Parce qu'on imagine que quand les familles viennent à l'EHPAD, elles ont besoin après d'aller rencontrer quand même leurs proches. Et si on les garde 3 heures ou 3 heures et demie, elles n'auront pas le temps ou le loisir d'aller rencontrer leurs proches. Donc, on les garde pendant 2 heures. Alors, il y a un petit peu la même chose que dans la formation des aidants, sauf que nous n'abordons pas, bien sûr, les aides, nous n'abordons pas les problèmes juridiques, parce que ça a été fait avant. Quand les personnes sont en EHPAD, elles n'ont plus besoin de faire tous les dossiers d'appât, etc. Tout ça s'est fait. Nous abordons surtout la communication avec mon proche, l'explication des troubles du comportement, la mission des uns et des autres. Et puis, on s'est posé la question aussi d'aborder la fin de la vie. Ça pourrait être intéressant de voir, de réfléchir avec les familles, ça. On écoute beaucoup les souffrances, les questionnements, et ce groupe dans les EHPAD, ces formations se font en l'absence, bien sûr, des personnels hein, de l'EHPAD, en l'absence de la psychologue de l'EHPAD qui souvent aurait bien voulu savoir ce qui se passe, ce qui s'y dit, mais on est vraiment très très attentif à la confidentialité, voilà. Et puis la dernière réunion se termine par une mise en commun avec donc au bout de 3 voire 4 séances avec de nouveau la gouvernance de l'EHPAD et avec des propositions concrètes des familles afin de trouver encore une fois leur juste place dans l'EHPAD. C'est-à-dire, on a eu une famille qui disait « Mais moi, je viens recoudre les boutons et les fermetures éclairs de ma maman, pourquoi ne pas le faire avec d'autres résidents de l'EHPAD à côté de moi ?» Et ma maman, bien sûr, une autre famille avait proposé de se charger, quand il y a des goûters, par exemple, de préparer des gâteaux pour qu'elle puisse aussi participer indirectement à une vie, à la convivialité de l'EHPAD. Il peut y avoir des tas de propositions comme ça qui permettent aux familles de trouver leur place. Il y a eu dans beaucoup d'EHPAD dans lesquels nous avons fait cette expérimentation, des solidarités qui se sont découvertes. C'est-à-dire des familles qui disaient « Ah, mais oui, je vois que vous venez voir votre mari. Ah, et moi, je viens voir ma maman. Mais si un jour, vous ne pouvez pas venir, n'hésitez pas, voilà mon téléphone, je pourrais vous donner des nouvelles de votre mari ou de votre maman. » Et puis d'autres familles qui disaient « Mais ah oui, mais moi, je ne peux pas venir souvent parce que je ne conduis pas. » Et une famille disait « Mais moi, je n'habite pas très loin de chez vous. Si vous voulez, je peux peut-être vous accompagner. » Donc ça, je trouve ça absolument magnifique. Et c'est des choses qui se font, j'allais dire, en dehors de l'EHPAD, mais peut-être des solidarités qui se nouent alors que les personnels de l'EHPAD n'auraient pas forcément pensé à proposer ces solidarités-là.
Ah justement, j'allais vous demander, les aidants, ils sont réceptifs à la formation ? Quels sont leurs retours ?
Non seulement ils sont réceptifs, mais dans un établissement du nord de la Dordogne, là, il y en a qui ont dit « Est-ce qu'on pourrait pas recommencer une deuxième fois ?» Parce que on n'a pas tout dit, on a encore besoin de travailler. Et donc la question qui se pose, mais je vous la livre comme ça, c'est encore une fois d'essayer de réfléchir avec la psychologue de l'EHPAD quand elle y est, pour prolonger, comme on le fait dans les formations des aidants, avec un groupe de parole qui serait peut-être animé par la psychologue de l'EHPAD ou la psychologue de France Alzheimer. On ne sait pas encore, parce que il y a des choses qui se disent de manière beaucoup plus libre avec les personnes, les psychologues de France Alzheimer, et puis l'aidant qui est en binôme là, l'ancien aidant, le bénévole de France Alzheimer, qui peut dire « Oui, moi aussi j'ai traversé ça. Moi aussi je n'avais pas confiance dans les aides-soignantes. Ou moi aussi j'étais malheureuse quand je voyais que mon papa souriait plutôt à l'aide-soignante et moi avait l'air de ne pas me reconnaître. » Donc vous voyez, ces questionnements-là, je peux pas tout vous dire parce qu'on est encore en train de travailler, et je pense que petit à petit, dans les années qui viennent, on va avoir le retour des autres associations qui vont nous dire bah, faut peut-être un petit peu modifier ce qu'on avait imaginé. En tout cas, les familles, les questionnaires qu'on leur a demandé sont extrêmement reconnaissantes de ce temps-là de parole où ils peuvent échanger vraiment, j'insiste beaucoup, en toute transparence, en toute liberté et en toute discrétion, enfin confidentialité, plus que ce qu'on peut dire dans un CVS par exemple. Puis il y a aussi les personnels de l'EHPAD qui sont là, donc on n'ose pas trop dire. Et je crois que la mission du psychologue et du bénévole est vraiment toujours de valoriser, de valider ce qui se passe dans l'EHPAD, sans critiquer, sans voilà, d'entendre les incompréhensions. Mais on est là dans la co-construction d'un projet individualisé. Alors souvent, on en parle beaucoup des projets individuels, des projets personnalisés. Quelquefois, dans certains établissements, on voit que ça n'est pas toujours respecté, que ça n'est pas toujours fait avec la personne malade et avec son proche aidant, que c'est une affaire de soignant, que voilà. Et donc, c'est des petites avancées qu'on peut proposer aussi. On est vraiment dans ce petit pas de côté pour que chacun puisse comprendre l'autre, l'équipe soignante d'un côté et puis la famille de l'autre. Je crois que, parce que la personne malade, elle a besoin de sentir que tout le monde se fait confiance autour d'elle. C'est important quand même de pouvoir dire ça. Et puis, je crois que le discours des bénévoles pendant ces formations est très déculpabilisant pour les familles qui sont là. C'est-à-dire que les familles, elles sont très reconnaissantes d'avoir entendu que la décision qu'elles ont prise de confier leurs proches à l'EHPAD était une bonne décision, à la fois pour la personne malade, mais aussi pour eux-mêmes, ce qui leur permet de retrouver une relation qui n'est plus une relation de soins, mais une relation de tendresse, une relation filiale, une relation de couple, voilà. Nous, on l'a éprouvé avec nos proches quand on les a confiés en EHPAD, et qu'on était très culpabilisés, que l'entourage nous disait « tu n'aurais pas dû, pourquoi tu as fait ça, etc. » Et le fait de se dire que finalement, ça n'était pas forcément la pire des solutions, mais peut-être la moins mauvaise compte tenu de l'avancée de l'évolution de la maladie, peut-être pas forcément la meilleure solution, puisque la meilleure solution, ça aurait été que le proche ne soit pas malade, évidemment. Mais ça n'était en tout cas pas la pire des solutions, et qu'on pouvait continuer à avoir une relation, à ouvrir des possibles encore au sein de l'EHPAD. Alors, je ne vous cache pas qu'un certain nombre, les établissements qui ont accepté de nous accueillir sont des établissements, j'allais dire, qui sont dans une démarche de qualité, qui sont bienveillants. C'est des établissements qui, dans notre petite expérience, hein, des trois départements, sont des établissements qui étaient ouverts à ce regard extérieur. Donc peut-être qu'on va découvrir qu'un certain nombre d'établissements n'ont pas du tout envie qu'on vienne regarder ce qui s'y passe et que voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, les établissements qui dans lesquels on intervient nous font des retours tout à fait extraordinaires. Enfin, ça a même changé le rapport, disent-ils, de familles un petit peu revendicatrices qui ne comprenaient pas, qui prenaient des photos, qui n'étaient jamais contentes, à juste titre souvent. Le fait d'avoir compris que quand la maman disait « je n'ai pas mangé depuis 2 jours », c'était peut-être la maladie qui faisait dire ça, mais ça n'était pas forcément la réalité. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais quand on n'a jamais expliqué aux familles que dans cette maladie, peut-être que ce qui est dit avec des mots n'est pas vraiment la réalité, que voilà, ça ouvre d'autres horizons en tout cas pour les familles qui sont là, et ça permet aussi de... Je crois beaucoup à cette solidarité-là entre les familles qui peuvent parler d'autre chose que de ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est de leur faire imaginer des projets communs à l'intérieur de cette nouvelle maison qui accueille leurs proches malades.
Donc du coup, on peut dire que les aidants se sentent mieux pour faire face à leur situation.
Alors, les familles, en tout cas, se sentent mieux parce que, je vous dis, elles nous ont dit, est-ce qu'on pourrait continuer ou recommencer une deuxième formation ? Et en tout cas, on en parle autour de nous. On a eu d'autres familles qui n'étaient pas là. On leur dit, mais si, allez-y, c'est drôlement intéressant. Nous, ça nous va mieux, en tout cas. Oui, je pense que ça allège ça allège ce fardeau, ça allège cette culpabilité. Et encore une fois, ça permet de regarder l'entrée en institution comme un possible bienveillant pour son proche et non pas comme une catastrophe, comme vraiment très culpabilisante. C'est parce que je n'y arrivais plus que j'ai été obligée de le placer. Donc on s'attache beaucoup à enlever ce mot du vocabulaire. On ne place pas des gens, on les accueille en établissement. Et donc, vous voyez, au niveau des mots, c'est extrêmement important. C'était extrêmement important pour les familles qui, du coup, arrivent à accepter de manière un peu moins douloureuse la situation. Alors, ce qui n'est pas abordé, c'est que je vous disais, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque mon proche va être en fin de vie. Et ça, on l'a pas abordé. Peut-être que ce sera quelque chose qu'il faudra ajouter à cette formation. Ça n'est pas abordé non plus dans la formation des aidants à domicile. Hein. Mais je pense que c'est une ombre, l'ombre de la mort plane quand même hein, sur les EHPAD, parce qu'on sait très bien que c'est là où ça va se passer. Que au niveau des loyautés, les familles nous disent « ma mère m'avait toujours dit « je veux mourir chez moi » et je n'ai pas respecté ce souhait-là ». Donc comment faire qu'on puisse mourir chez soi dans une chambre d'EHPAD ? Est-ce que cette chambre d'EHPAD devient un autre chez soi ou pas ? Comment est-ce que je vais aborder ce problème des dernières volontés ? Comment, enfin, vous voyez, tout ce travail-là, est-ce que cet EHPAD m'assure que les équipes de soins palliatifs vont pouvoir venir accompagner mon proche ? Il y a tout ce travail-là qui me paraît important, surtout actuellement avec tout ce qui se passe autour de la loi, qu'il faut changer, pas changer, voilà comment est-ce que... Et c'est quelque chose qui arrive de manière un peu ténue, de manière murmurée, la fin de la vie, voilà, je ne serai pas là, est-ce qu'ils m'appelleront à temps avec le spectre du Covid qui est passé par là, avec tout ce qui s'est passé de manière tragique, des personnes qui sont mortes toutes seules, des familles qui n'ont pas pu accompagner, enfin voilà. Donc, je pense que on va évoluer, on va peut-être ajouter un module autour de ça. Je ne sais pas, mais le doute, voilà, hein, le doute et puis le tâtonnement comme ça, je crois que c'est enrichissant, c'est bien.
Orientation, inclusion et sensibilisation, ce sont trois axes hein, sur lesquels la Dordogne s'est engagée depuis plusieurs années avec l'association. On peut dire que cette formation va aussi dans ce sens.
Elle va aussi dans ce sens, effectivement, y compris, alors je vais faire mon petit chapitre citoyen, y compris au niveau au niveau citoyen, c'est-à-dire que vous savez, moi qui suis un peu une vieille dame, là quand même, j'ai connu les EHPAD il y a 45 ans, donc on a considérablement évolué. On a appelé maintenant ça des EHPAD, des lieux de vie. Mais quand on dit lieu de vie, ça me paraît un petit peu restrictif parce que c'est un lieu de vie, certes, mais c'est aussi un lieu de fin de vie. Et donc, quand on axe la politique de l'établissement sur l'animation, sur le fait qu'il faut faire des choses, lutter contre la perte d'autonomie, c'est sûr que c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là, elles sont là pour terminer leur vie et elles vont y mourir. Donc il y a tout un travail au niveau des établissements sur comment abordez-vous la fin de vie des personnes qui sont là et quelle place vous allez laisser aux familles dans cet accompagnement au long cours, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rester dormir dans la chambre des résidents, est-ce que lorsque la personne arrive en fin de vie, les horaires de visite sont complètement libres, on peut venir le soir jusqu'à 10h ou 11h du soir. Comment ça se passe, vous voyez, concrètement? Est-ce que la personne qui arrive au bout de son chemin, est-ce qu'elle a pu dire des choses avant? Est-ce qu'on a recueilli ça? Est-ce que les EHPAD ont recueilli ça? Souvent, on a des établissements qui sont un peu dans la négation de tout ça. Mais non, on est là pour vous. Voilà, on est là. C'est une maison de retraite. Mais si vous allez voir, c'est super. On fait plein d'activités. Oui, certes, mais il y a aussi la question de la fin de la vie, qui quelquefois n'est pas abordée à sa juste valeur, parce que dans un certain nombre d'établissements et de départements, il n'y a pas de service de soins palliatifs. Je vous rappelle qu'il y a 30 départements en France qui ne bénéficient pas d'équipes mobiles de soins palliatifs ou de services de soins palliatifs, et que l'idée d'aller mourir sur un brancard dans les couloirs des urgences, c'est pas forcément ce qu'on a envie de pour son proche. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la nuit, la personne qui va mourir a des symptômes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'aide-soignante qui est toute seule appelle le 15, qui ne vient pas, bien sûr? Enfin, vous voyez, donc il y a toute une réflexion politique derrière, politique, j'allais dire avec un grand P, hein. Mais les EHPAD sont effectivement des lieux de vie, mais aussi des lieux de soins, mais aussi des lieux de fin de vie, mais aussi des lieux de soins palliatifs au long cours, sur plusieurs années. C'est-à-dire que le soin palliatif, c'est lorsqu'on développe un soin qui n'est pas curatif. Or, on sait très bien que quand on arrive en EHPAD, on ne va pas ressortir guéri. Donc, on est dans cette démarche palliative qui n'est pas une démarche d'accompagnement à la mort que à ça, hein, mais qui est aussi une démarche d'accompagnement jour après jour de ce dernier chemin. Donc, ça suppose vraiment beaucoup une réflexion très abouti, je crois, et ça va permettre que les familles et les personnes malades, parce qu'elles ont des choses à nous dire aussi, lorsque, dans mon expérience, les personnes disent « je vais mourir dans une EHPAD », l'ensemble des personnes à côté, des professionnels, disent « mais non, vous n'allez pas mourir, regardez, on est là, nous, on s'occupe de vous ». Ben si, elles vont mourir. Et comment est-ce qu'on entend? Comment est-ce qu'on recueille cette parole de celui qui murmure, au-delà de sa démence, au-delà de sa maladie, cette angoisse face à la mort? Comment est-ce qu'on l'accueille? Comment est-ce qu'on l'accompagne? Comment est-ce qu'on en parle avec les autres qui mangent à sa table, qui sont les voisins de chambre? Comment est-ce que... Vous voyez, je crois qu'il y a tout ça derrière aussi. Et comment est-ce qu'on permet que ce dernier chemin soit un moment un moment d'accomplissement, un moment de restauration des liens qui ont été distendus avec tel ou tel enfant, tel ou tel frère et sœur avec qui on est fâché. Comment est-ce qu'on aborde tout ça? Comment est-ce qu'on facilite ça? Et peut-être que au niveau des personnels soignants que je connais bien, si on leur dit qu'ils sont aussi les acteurs de ce dernier chemin et non pas que des personnels qui sont là pour éviter la perte d'autonomie, ce qu'ils n'évitent pas, et donc ce qui les entraîne dans des conflits de valeurs aussi, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à empêcher Madame Attel d'être décédée, bah oui forcément, puisque on sait très bien que quand elle arrive dans une EHPAD, elle va y décéder. Lorsque Madame Attel ne mange plus, les familles elles disent mais comment, c'est pas possible, ma mère a maigri, vous ne lui donnez pas assez à manger, voilà. Donc il y a tout ce travail d'explication, sans être intrusif vis-à-vis des plans, vis-à-vis des personnels, mais comment est-ce qu'on peut dire ensemble, penser ensemble l'évolution de la maladie et les derniers chemins de cette maladie-là. Et donc c'est vrai que ce qui est bien, c'est de pouvoir effectivement avoir un regard extérieur avec le binôme bénévole-psychologue de l'association. Et puis, en collaboration avec les cadres infirmiers, les psychologues, le personnel soignant de l'EHPAD, qu'on puisse essayer d'avoir ce temps un petit peu de recul, ce regard un petit peu, ce regard conjoint entre les deux positions. Et puis, je crois que ça peut faire bouger un petit peu le regard des directions qui ne sont pas forcément attentifs à ça, qui ont des injonctions, des procédures, des choses comme ça. Mais ça suppose que peut-être que si la personne qui arrive au bout de sa vie a besoin d'un temps, moi j'appelle ça des perfusions de présence, d'un temps où un soignant passe un quart d'heure auprès de la personne, comment est-ce que c'est reçu? Comment est-ce que c'est possible? Alors, on va me dire, oui, il manque du personnel, il y a un turnover, il y a des intérimaires, etc. Mais si on redonne aussi aux équipes d'EHPAD, il y a des équipes, on a rencontré dans ces formations-là une EHPAD absolument tout à fait magnifique, où il n'y a pas de problème de personnel, où justement cet accompagnement-là est un des objectifs de l'EHPAD. Je crois qu'on peut-être faire avancer les choses, évoluer, voilà. Il faut que ça se fasse dans le respect des uns et des autres, mais que, chemin faisant, donner des petites touches, poser les bonnes questions. Est-ce que vous ne croyez pas que, peut-être que sans agressivité, sans que les familles se sentent considérées comme des râleurs en permanence, ça peut aussi faire évoluer des regards, des objectifs d'établissement, des projets d'établissement, tout en remettant la personne malade au centre de ce qui nous préoccupe tous.
Dernière question, Geneviève, pour les personnes qui nous écoutent, comment s'inscrire à cette formation ?
Alors, nous, on a fait une information auprès des instances départementales pour leur dire de transmettre l'information à toutes les EHPAD qu'elles gèrent, puisque c'est les départements qui sont à l'origine de ça. Les directeurs s'en emparent ou ne s'en emparent pas. Et à l'intérieur des établissements, on prend notre bâton de pèlerin et puis on a un certain nombre de psychologues, nous, chez nous, qui sont répartis, mais dans les autres départements aussi, qui ont été dans l'expérimentation, qui connaissent déjà des EHPAD, qui travaillent déjà avec elles. France Alzheimer est quand même une association reconnue, une association qui a ses lettres de noblesse quand même. Donc beaucoup d'établissements connaissent France Alzheimer parce qu'ils ouvrent leur établissement pour des activités. Quelquefois, ils prêtent des salles. Enfin, voilà. Donc en fait, ça va pas se faire du jour au lendemain. L'idée, c'est que comme c'est gratuit, les EHPAD, elles sont contentes quand même. Alors, nous, on avait demandé aux EHPAD qui nous accueillent et qui bénéficient finalement de cette formation d'être adhérents à France Alzheimer. Mais les familles qui viennent aux formations ne sont pas, bien sûr, comme dans la formation des aidants, elles ne sont pas obligées d'être adhérentes à France Alzheimer. Mais les EHPAD, celles qui avaient oublié ou qui ne savaient pas, elles sont adhérentes à France Alzheimer. Dans une EHPAD, c'est la psychologue qui avait suscité une rencontre de famille et le directeur n'était pas forcément... Enfin, voilà, il a fallu qu'on aille le rencontrer. Voilà, mais oui, mais c'est quoi, mais comment voilà, finalement, les choses se sont faites et tout le monde en a eu beaucoup de bénéfices. Tout le monde est très content. Alors, encore une fois, hein, les choses vont évoluer parce que d'abord, il faut que ça soit présenté à la CNSA de manière finalisée pour que ce soit financé, parce que pour l'instant, c'est à titre expérimental. Hein, les psychologues sont financés à titre expérimental, mais une fois que la CNSA va valider, je crois qu'elle est très attentive et très, très demandeuse de ce travail-là, bah, les psychologues vont être financés comme dans le cadre de la formation des aidants hein, par la CNSA. Et puis les bénévoles, bah, ça c'est les bénévoles, hein, voilà.
Eh bien, merci beaucoup Geneviève Demour de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.
Voilà, je vous en prie Valérie.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez réagir et poser vos questions, je le rappelle, hein, sur l'espace commentaire de la radio ou la page Facebook de l'association. Et puis, vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.